le journal Claude Bousset.
La rougeole gagne du terrain à l'est de Kinshasa. Plus de 900 cas enregistrés pour lutter contre cette maladie qui tue les enfants. Le médecin responsable de la direction de lutte contre la rougeole au niveau du ministère de la Santé appelle les parents à faire administrer de la vitamine A à leurs enfants. À Butembo, au Nord Kivu, Étienne Mouindo nous parlera du début de la session de formation des cadres de la police pour la sécurisation des opérations électorales. Un journaliste emprisonné dans le cachot de l'ANR à Kinshasa pour avoir amené une lettre à la RTNC, lettre qui devait le proclamer président de la République. L'association Journaliste en danger plaide pour sa libération simplement parce que ce confrère est devenu malade mental. Bonsoir, merci de votre attention. Près de 900 cas de rougeole enregistrés à l'est de Kinshasa depuis le mois de juin. La commune de Kimbanseke est l'une des plus touchées par cette maladie, cette épidémie qui serait due au manque de vaccination des enfants. Pour s'en sortir, il faut recourir à la vitamine A, telle que l'explique le docteur Kebela Ilunga, directeur de la division de lutte contre la rougeole au ministère de la Santé. Il est au micro de Kélim Kouté.
La rougeole qu'on a maintenant, elle est moins meurtrière à cause de la vitamine A qu'on a de nos enfants, la vitamine A qui renforce le système de défense des enfants contre les infections. Nos vaccinations des enfants favorisent les flambées. Et puis pourquoi nous avons aussi un facteur déterminant pour Kinshasa, c'est la promiscuité. Les gens sont ensemble, une forte densité. Et c'est ça, c'est un facteur déterminant pour l'explosion de la rougeole. Pour la ville de Kinshasa, si on peut voir les cas cumulés depuis le début de ces phénomènes, nous sommes autour des 9000 cas. Mais il y a moins de décès.
Vous l'avez entendu, il s'agit de près de 9000 cas de rougeole enregistrés à l'est de Kinshasa et la commune de Kimbanseke est la plus touchée. À Lubumbashi maintenant, une femme arrêtée en lieu et place de son mari en fuite. Elle a subi torture, coups et blessures graves à la police criminelle de cette ville. La dame se trouve dans un état comateux à l'hôpital militaire du camp préfabriqué de la capitale du cuivre, ce qui relance le débat sur le traitement des citoyens dans les postes de police. Donat Chimboj nous retrace les péripéties qui entourent la mésaventure que vit cette femme.
La victime répond au nom de Mimi Balela, épouse de Aimé Zongolo. D'après les informations collectées par la section des droits de l'homme MONUC, Aimé Zongolo a disparu avec une somme d'argent de son employeur, M. Kambale. Lundi 1er août 2005, la police criminelle arrête, en l'absence de la maman, quatre de ses enfants, dont un bébé d'un an. Quand la femme se présente, elle est mise au cachot. La nuit du 4 au 5 août, vers 2 heures du matin, deux policiers la sortent de sa cellule, la déshabillent et la fouettent jusqu'à perdre conscience. Ils décident de la déposer à l'hôpital militaire du camp préfabriqué pour des soins. La famille de la victime alerte la MONUC et l'auditorat militaire. Le 9 août 2005, l'auditeur militaire ordonne la visite d'une équipe mixte composée d'un officier de la MONUC chargé des droits de l'homme, un magistrat militaire, un avocat de l'ONG Humanitas Justice et un parent de la victime. Selon la section des droits de l'homme de la MONUC, Mimi Balela a des plaies sur les parties sensibles du corps et au dos. Elle parle difficilement et urine du sang. L'ONG Humanitas Justice a saisi les juridictions compétentes pour les infractions commises par les officiers et le plaignant Kambale. Aux dernières nouvelles, l'OPJ Dona Atuena de la police criminelle serait déjà aux arrêts dans les cachots de l'auditorat militaire depuis le mercredi 10 août. Dona Chimbouche, Lubumbashi, Radio Okapi.
En Mbujimayi, évasion de trois soldats criminels détenus au cachot militaire de Lufwalanga. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi dernier. Odo Makutu, auditeur supérieur de Mbujimayi, rassure que tout est mis en œuvre pour rattraper les malfaiteurs. Reportage signé Emmanuel Elamiji.
Il s'agit de Kalonji Sino, Kalonji Petelo et Kasongumbimba, des militaires condamnés pour avoir commis des meurtres. Deux d'entre eux devaient purger 20 ans de prison ferme et l'autre condamné à perpétuité. La police militaire a déjà appréhendé trois présumés complices et selon leurs témoignages, les trois meurtriers se sont échappés avec la complicité du chef de poste toujours introuvable. L'auditeur supérieur militaire de Mbujimayi, Odon Makutu, confirme que les enquêtes sont en cours pour rattraper ces malfaiteurs qui constituent un danger pour la population. Pour la petite histoire, ces évadés étaient des pensionnaires de la prison centrale de Mbujimayi. Avec la tentative d'évasion dans la nuit du 29 au 30 juin dernier, ces trois évadés avaient été transférés au cachot de Lufwalanga. Tentative au cours de laquelle les prisonniers avaient détruit l'enceinte de la prison centrale et les pensionnaires avaient été dispersés dans divers cachots de la ville. Pour sa part, le directeur de la prison centrale de Mbujimayi, M. Mulowai, affirme que les travaux de réhabilitation vont bon train et dans moins d'une semaine, les prisonniers transférés à Lufwalanga et ailleurs pourront réintégrer la prison centrale qui sera capable d'assurer une haute sécurité. De Mbujimayi, Emmanuel Elamegi, Radio Okapi.
Les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 dans le Bas-Congo se poursuivent. La fin des travaux est prévue pour l'année 2005 en cours. Le trafic sur certains tronçons pourrait même reprendre dès le mois prochain, comme nous le révèle cette correspondance de Matadi signée de Namadimba.
Long de 17 km et exécuté par l'Office des routes, service technique de l'État pour la construction des ponts et chaussées, le tronçon de la nationale numéro 1, compris entre Tchiela et Singini, devrait être, sauf imprévu, terminé le mois prochain, selon la direction de cet office. À ce stade, selon la même source, il ne reste plus qu'à installer les buses pour l'évacuation des eaux. C'est un tronçon qui est sans asphalte, pour le moment, toute en terre. Le second chantier qui pourrait être clôturé toujours avant la fin de cette année 2005, c'est le tronçon Banzangungum-Pioka, 100 km environ. Pour ce tronçon, il ne reste plus qu'à supprimer les pentes et redresser la route selon un profil reconnu aux routes à travers le monde. Quant aux autres tronçons à réparer de la nationale numéro 1, long de plus ou moins 300 km, il pourrait probablement être clôturé en 2007, toujours selon l'Office des routes. Depuis Matadi, de Namadimba, Radio Okapi.
Sachez que ces travaux financés par la Banque mondiale, le gouvernement congolais, de ces travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 ont commencé au début de cette année. Notez aussi que la nationale numéro 1 mesure plus de 3000 km. Elle commence à Banana dans le Bas-Congo et se termine à Sakania dans le Katanga. Processus électoral à présent, la formation à la sécurisation des élections à l'intention des policiers continue. Cette fois, c'est au Nord Kivu. Elle a commencé aujourd'hui en présence du maire de la ville, de l'inspecteur provincial de la police et du coordinateur de la police de la MONUC et du chef de bureau de liaison de la CEI. Étienne Mouindo, reportage.
Plus de 3000 cadres et agents de la police sont concernés par cette formation qui va durer 6 jours, déclare l'inspecteur provincial de la police au Nord Kivu. Ces séminaires vont apprendre la déontologie policière, le rôle du policier dans la sécurisation des élections, les infractions à la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, voire les notions de base sur le sécurisme. Le général Jean-Marie Ndati Kapinde souligne qu'en prévision des élections et surtout du démarrage le 21 août prochain au Kivu, de l'opération d'identification et enrôlement d'électeurs, les autorités ont décidé de former les policiers à la sécurisation du processus électoral. Cette formation est assurée par des experts de la MONUC et de la police congolaise. Goutembo, Étienne Mouindo, Radio Capi.
Polémique autour de la disparition des 8 générateurs de la CEI, de 8 générateurs de courant électrique de la CEI au bureau de liaison de Bounia il y a une semaine. La CEI culpabilise la police nationale congolaise. Celle-ci nie toute implication dans cette affaire, affirmant qu'elle a normalement convoyé le matériel jusqu'à Chomia où a été constatée la disparition. Jusqu'à présent, on n'a trouvé aucune trace de ces générateurs. La description des faits dans ce reportage de Charles Ndrige.
La CEI Bounia affirme que le 8 groupes électrogènes étaient bel et bien dans le lot du matériel électoral convoyé dans les différents sites de Kasenyi et Chomia par la police nationale congolaise. Monsieur Ukunya Unjinga, responsable de la CEI Bounia.
Le camion a été chargé à Bounia en présence de notre agent et de la police. Arrivé à Chomia, l'agent de la CEI va demander à ce qu'on puisse décharger le matériel le même jour. La police va refuser. Le lendemain matin, il constate directement 8 générateurs disparus. C'est la police qui est concernée dans ces dossiers.
De son côté, la police nationale congolaise dit n'avoir pas été associée au chargement du matériel qu'elle a toutefois convoyé jusqu'à destination sans problème, ajoute le major Salomon Ilomba, chargé des renseignements à la coordination de la police intégrée du district de l'Ituri.
Ils sont arrivés à Chomi à la nuit. Tout au long du parcours, tout le monde était d'accord qu'il n'y avait rien de disparu. Ceux qui devaient réceptionner ces matériels-là se sont dit, la nuit, il n'y aura pas moyen de vérifier. Demain matin, nous allons procéder à la remise et reprise. Après le déchargement, on a constaté qu'il y avait 8 générateurs qui manquaient.
Pour la CEI Bounia, il n'est pas question de perdre le matériel. Elle vient de saisir le parquet de Bounia pour établir les responsabilités des uns et des autres. En attendant, les 6 policiers et l'agent de la CEI qui avaient convoyé le matériel sont détenus depuis 5 jours à la police nationale congolaise pour des raisons d'enquête, avons-nous appris. Charles Ndergicha, Bounia, Radio Okapi.
Restons toujours dans la province orientale, cette fois à Akéti, dans le district du Bazouélé. Certains candidats au poste de recenseur sont mécontents. Ils accusent le responsable du bureau de liaison de la commission électorale indépendante à Bouta d'avoir écarté leur nom de la liste au profit des inconnus. Je vous propose plutôt d'écouter ici les reproches de la société civile de Akéti au bureau de liaison de la commission électorale par la bouche de l'abbé Gérard Mboula, porte-parole de la société civile d'Akéti, joué au téléphone par Aliana Ali Panagama.
On a constaté que les principes qui étaient soi-disant adoptés, selon lesquels il fallait prendre plutôt des enseignants, et alors les centres qui étaient retenus, c'était des écoles, et les responsables de cette école, le préfet ou directeur, étaient d'office président du centre et un de ses enseignants, agent donc d'identification. Quelques endroits, c'est respecté, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout respecté. Alors on a compris directement qu'il y a eu des manœuvres dilatoires pour servir en fait le clientélisme et le népotisme.
Pour le chef de bureau de liaison de la CEI à Bouta, c'est là une ingérence de la société civile dans l'organisation technique de la CEI. On écoute Kumbokpio Sangi-Sangi. Il est encore une fois au micro de Aliana Alipanagama.
Et des gens qui ne sont pas les chefs d'établissement, des établissements pris comme le centre d'inscription. Ils veulent qu'on puisse tenir compte des gens qui ont postulé chez eux pour être président, pour être ceci. Même des personnes qui ne sont pas des chefs d'établissement. Il a fallu sa liste. Or, on ne peut prendre comme président des centres que le chef d'établissement qui est l'établissement a été choisi comme centre d'inscription.
Notez par ailleurs que la société civile d'Akéti déplore également en outre la réduction du nombre des centres par la CEI, nombre qui est passé de 21 à 18. Terminons par cette histoire de détention au cachot de l'ANR d'un journaliste souffrant de troubles mentaux. Il s'agit de Ntumba Lumembu du journal La Tempête des Tropiques. Il a été arrêté à la RTNC au moment où il se pointait avec une lettre devant faire de lui président de la République. L'association journaliste en danger estime que la maladie du journaliste est une raison suffisante pour sa libération. Chivis Chivodi, secrétaire général de GED, journaliste en danger, il est interrogé par Georges Kamujova.
Quand nous découvrons qu'il est détenu dans un camp militaire, ça nous inquiète encore davantage parce que c'est un jeune qui est malade, tout établi. Au lieu de l'amener dans un centre de santé, on l'amène dans un camp militaire où il ne se reçoit pas de soins et où il n'a pas la visite de sa famille. Ça nous inquiète. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'on puisse le libérer, qu'il rentre dans sa famille, qu'on puisse le soigner.
Le fait qu'il se soit présenté avec un communiqué, soi-disant qu'il devenait président de la République, vous ne voyez pas que c'est très grave pour un journaliste?
Mais je dis que c'était malade. C'est établi, il a fait une crise de folie au niveau de sa rédaction. On lui a accordé un congé, il ne travaillait plus. C'est dans cette crise-là qu'il s'est présenté là-bas. On peut dire qu'effectivement, c'est une atteinte, mais je dis que c'était malade. Hein, mais là, il faut l'amener là où on peut lui donner des soins, et on peut le soigner, et pas l'amener dans un cachot, ou en tout cas pas dans la nerf.
Et GED aujourd'hui fait l'avocat d'un malade ou d'un journaliste?
D'un journaliste qui est malade et qui est détenu dans un camp militaire, c'est pas normal.
Ailleurs qu'en République démocratique du Congo, nous commençons au Soudan. Salva Kiir Mayardit, le leader du mouvement de libération des peuples du Soudan, a prêté serment ce jeudi. Il a été investi vice-président du Soudan en remplacement de John Garang, décédé dans un accident d'hélicoptère le 30 du mois de juillet dernier. Salva Kiir Mayardit a promis de respecter l'esprit et la lettre de l'accord de paix que ce mouvement a signé avec la présidence du Soudan en janvier dernier. Au Burundi voisin, Pierre Nkurunziza, chef des ex-rebelles des forces pour la défense de la démocratie FDD. Il est assuré de devenir le prochain président du Burundi. Il sera officiellement démobilisé demain vendredi. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'opération de l'ONU au Burundi, ONUB. Cette mesure de démobilisation concerne aussi les généraux Léonard Nyangoma, président du CNDD, une aile distincte de l'ex-rébellion, et Joseph Karumba, chef historique du Front pour la Libération Nationale, Frolina, l'une des plus anciennes rébellions Hutu du Burundi, créée avant le début de la guerre civile en 1993. C'est ce qu'a précisé aussi le porte-parole militaire de l'ONU, le commandant Adama Diop. C'est ici que nous terminons ce journal. Le rappel des titres avant de nous séparer. La rougeole gagne du terrain à l'est de Kinshasa. Plus de 9000 cas enregistrés pour lutter contre cette maladie qui tue les enfants. Le médecin responsable de la direction de lutte contre la rougeole au niveau du ministère de la Santé appelle les parents à faire administrer de la vitamine A à leurs enfants. À Boutembo, Etienne Mouindo nous a parlé du début de la session de formation pour les cadres de la police nationale. formation destinée à la sécurisation des opérations électorales. Enfin, nous avons parlé à Kinshasa du journaliste emprisonné dans le cachot de l'ANR à Kinshasa pour avoir amené une lettre à la RTNC, lettre qui devait faire de lui président de la République, journaliste en danger, demande à ce qu'on le relâche simplement parce qu'il est malade mental. Vous êtes nombreux à nous avoir suivis. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Okapi.